Donc bienvenue sur le stand de l'Agora du Net. Installez-vous, il reste deux places ici à l'avant. Madame, asseyez-vous, il reste une place ici à l'avant, installez-vous. Voilà, il reste zéro place, donc vous allez devoir rester debout, j'en ai peur, parce que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors deux mots d'abord, l'Agora du Net, qu'est-ce que c'est ? 11 sites photo francophones, deux magazines déclencheurs Focus Numérique et une série de communautés photo de forums qui se sont regroupés pour vous proposer, n'ayant pas peur des mots, les meilleures conférences de tout le salon. Les conférences sont courtes, une vingtaine de minutes, pour vous permettre quand même de profiter du salon et d'aller voir le reste. Alors ici, c'est une conférence un petit peu particulière, dans le sens où on a invité un autre site photo, l'équipe de Lens. Ils ont des choses très intéressantes à dire, parce que en final, sur le salon, on va voir beaucoup de matériel. Puis parfois, on se demande un peu comment s'en servir. Ils ont beaucoup d'astuces, de techniques très pédagogiques pour vous apprendre comment utiliser ce que vous allez pouvoir voir en démonstration ailleurs, voire acheter au fond. La Mua, qui est journaliste et qui est également un des fondateurs de Lens. Rémi Chapeau-Blanc, qui est photographe et qui est également un des fondateurs de Lens. Je leur cède la parole.
Merci Benoît et bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour parler avec nous de photos. Deux trucs et astuces. On va vous en parler. Alors, on a 25 minutes, on négocie dur avec Benoît.
30.
Allez, 30. On va vous parler un peu de plein de petites choses en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on anime des formations et on fait des événements photo. Et une de ces séries s'appelle les Mini Lens. Et ce sont des ateliers pour débutants, dont la conférence ici va être un petit extrait. Donc vous allez voir, le but du jeu pour nous, c'est de parler à des personnes qui sont venues ou qui sont revenues à la photo avec le numérique. Et le but du jeu pour nous, c'est de vous apprendre la photo ou de vous faire un peu décrasser vos connaissances de manière un peu ludique et décalée. Et vous allez voir, on a 2-3 petites méthodes pour vous apprendre tout ça et vous donner des astuces.
Donc ici, j'espère que vous sortirez décomplexé de la photo. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui viennent nous voir en nous disant « Oui, je me mets à la photo, mais le numérique, je comprends pas trop. Je me mets en mode auto sur mon appareil photo et voilà, ça suffit. »
Donc, on va vous donner un petit exemple. Par exemple, ici, une des parties de nos ateliers, c'est la technique. C'est évidemment totalement indissociable de la photo. Et la technique, c'est souvent très rébarbatif. Et je pense que c'est une des barrières qui fait abandonner pas mal de monde. Savoir ce que c'est qu'un temps d'exposition, savoir calculer exactement une ouverture, pourquoi est-ce que 2.8, c'est deux fois plus rapide que 4 et pas 2, ce sont des choses très compliquées. Et on va essayer d'un peu de vous montrer. Alors, par exemple,
sur le cours technique, en général, on prend les gens une après-midi pour faire ces mini-cours. On perd à peu près la moitié des gens au bout d'une demi-heure. C'est normal. Mais en fait, on a des petites techniques, comme j'ai un bac à glaçons qui est posé sur la table, pour permettre aux gens d'appréhender toutes ces notions beaucoup plus facilement et de comprendre à quoi ça correspond facilement.
Par exemple, donc, ce bac à glaçons, à quoi il sert ? Il va nous servir à vous expliquer la lumière, la vitesse, l'ouverture et les ISO. On commence par la lumière parce qu'évidemment, la photo, le terme photographie, photo c'est lumière et graphie c'est écriture. Donc faire de la photographie c'est écrire avec de la lumière. Dans notre cas, ça va être aussi jouer avec la lumière, donc jouer avec les fameuses règles. Allez-y monsieur, venez vous asseoir. On va essayer de jouer avec
il
ça.
Il reste encore deux places.
C'est tout l'art de la photo et il ne faut jamais, jamais, jamais vraiment perdre cela de vue.
Donc on va imaginer que notre bac à glaçons, c'est un capteur numérique. Donc c'est la même chose que n'importe quel film photosensible, donc un film argentique de la peau quand vous bronzez, c'est une surface photosensible. Votre bague à glaçons, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de recevoir de la lumière, il reçoit de l'eau. Donc en fait, dans chaque petit trou de votre bague à glaçons, vous allez mettre de l'eau pour la faire congeler.
Et c'est pareil sur un capteur de lumière. Votre appareil photo, on va le voir sur la photo suivante, votre appareil photo, qu'il soit très compliqué comme ce Nikon D3X avec un objectif à 1000 euros ou un petit appareil photo jetable, c'est toujours pareil, c'est une boîte à lumière. Vous ouvrez votre appareil photo, un débit de lumière tombe et vient se déposer sur le capteur, on remplit ce capteur de lumière, ça fait une photo. C'est pareil pour un bac à glaçons, pour le remplir, on va ouvrir un robinet, on va laisser s'écouler de l'eau.
C'est comme si vous aviez un bac à glaçons ici, en fait, et qu'au lieu de mettre de la lumière, vous alliez mettre de l'eau. Donc vous imaginez que ça, c'est votre capteur numérique, et vous allez le remplir d'eau, et le but, c'est de le remplir correctement. Pas trop peu, parce que sinon vous n'avez pas de glaçons. Et si vous le remplissez trop, ça va déborder, ça va être dégueulasse, ça va coller dans le congélateur, c'est horrible.
Et en photo, c'est pareil. S'il n'y a pas assez de lumière qui tombe dans votre appareil photo, vous avez une photo noire. On a tous fait ces fameuses photos sans enlever, par exemple, le capuchon, donc il n'y a pas de lumière, la photo est noire. Et aussi ces photos où il y a trop de lumière, ça déborde, s'en fout partout dans le capteur, il n'y a plus rien. C'est une image toute blanche, complètement cramée qu'on a. C'est exactement pareil que pour un bac à glaçons. Vous ne regarderez plus jamais votre congélateur
de la même manière.
Normalement.
Vous refermez plein de pixels dans votre congélateur.
Pourquoi aussi on utilise ce système de bac à glaçons pour bien vous expliquer comment ça fonctionne ? C'est parce qu'évidemment, pour remplir votre image de lumière et pour faire des photos, il y a deux manières de le faire. il y a le temps qu'on va laisser la lumière tomber dans l'appareil photo et il y a le débit de lumière qu'on va laisser rentrer.
Alors, si on le traduit en termes d'eau et de bac à glaçons, en fait, vous avez deux manières de remplir votre bac à glaçons d'eau. Soit vous mettez votre robinet à fond, et dans ce cas, vous le remplissez très rapidement, vous arrêtez. Soit vous le mettez goutte à goutte, votre robinet, et là, vous allez pouvoir remplir votre bac à glaçons très lentement, mais très précisément.
Voilà, c'est ce qu'on voit souvent sur les appareils photos. Sur vos appareils photos, on peut gérer ce qu'on appelle l'ouverture et ce qu'on appelle la vitesse. On va commencer juste par la vitesse, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, la vitesse, donc, c'est le temps pendant lequel on va ouvrir son appareil photo pour faire rentrer la lumière. Ceux qui ont un réflexe ou qui ont déjà entendu un réflexe, vous allez entendre ce bruit, il va changer. Par exemple, on va faire une ouverture très courte, en très peu de temps. On va la refaire. Vous connaissez ce bruit. Et évidemment, si on veut ouvrir beaucoup plus longtemps pour faire rentrer la lumière plus longtemps, ça va faire un bruit différent, ça va s'ouvrir comme ça. Voilà.
Donc là, en fait, vous avez deux vitesses. Vous allez laisser la lumière rentrer plus ou moins longtemps. Sur votre robinet, c'est la même chose. Vous pouvez ouvrir votre robinet et le fermer tout de suite, ou laisser ouvrir votre robinet et laisser couler l'eau longtemps.
Alors, d'un point de vue technique, c'est évident. C'est, imaginons qu'on est ici, on est sur une scène éclairée, il y a des spots qui tombent dessus, il y a beaucoup de lumière. On va ouvrir assez peu de temps, il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous êtes dans un dîner entre amis, dans un resto où c'est très tamisé, il n'y a qu'une petite bougie ou une petite halogène qui éclaire légèrement, il y a très peu de lumière. Évidemment, pour faire rentrer l'information dans votre appareil photo, pour remplir votre capteur, il faudra ouvrir plus longtemps. Ça, c'est de manière technique, ça, c'est la lumière. Maintenant, de manière créative, évidemment, le but du jeu, c'est de jouer avec la lumière pour donner des rendus différents.
Alors, ce qu'il faut se souvenir en photo, c'est qu'à chaque fois que vous changez un paramètre, il y a toujours un impact technique et un impact créatif. Et il est toujours bien d'avoir conscience des deux. C'est-à-dire que là, sur l'effet de la vitesse, vous avez un impact technique qui va faire rentrer plus ou moins longtemps la lumière et un impact créatif qui va vous donner des rendus différents. Là, on a une vitesse très rapide qui doit être prise à peu près à 1/4 millième de seconde, qui permet de figer parce que c'est pris tellement rapidement que ça fige la scène. Et là, vous avez une photo qui a dû être prise à, je sais pas, 2-3 secondes. Et qui permet en fait de capturer le mouvement d'une scène parce que ça a été ouvert pendant 4 secondes.
Voilà, et quand on ouvre évidemment longtemps, tout ce qui se passe pendant l'ouverture de la photo s'imprime dans le capteur. Donc évidemment, ça vous est déjà arrivé, vous prenez en photo quelqu'un qui court, vous allez avoir des traînées dans les jambes, ça va être flou parce que vous avez ouvert un certain temps. Donc évidemment, on peut jouer sur la vitesse. Allez-y, venez vous installer. On peut jouer sur la vitesse pour donner des rendus différents. Quand on regarde les unes de l'équipe, par exemple, on voit ces fameux footballeurs rugbymen en train de shooter dans la balle avec la motte de terre et en train de voler et qu'elle est figée. C'est minimum 1/500 de seconde, voire 1/1000 de seconde, par exemple. En photo de mode, pour avoir un rendu un peu naturel, on est à 1/250, ouais. 1/500 pour les plus rapides. Mais voilà, la vitesse est très très importante pour avoir un rendu. Alors évidemment, on ne peut pas s'attarder sur le sujet parce qu'on n'a que 25 minutes au lieu d'une après-midi entière. Mais ça vous donne un peu le sujet. On passera sur l'ouverture parce qu'évidemment, c'est très compliqué
voilà.
À retenir.
Donc l'ouverture, si on passe sur l'effet technique de la photo et qu'on s'intéresse juste à notre robinet, c'est en fait la puissance du jet d'eau que vous allez laisser couler de votre robinet. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre robinet petit, en goutte à goutte, ou très fort, et là, vous avez une trombe d'eau qui sort de votre robinet. L'impact ne va pas du tout être le même et en fait, va jouer sur le temps que vous allez laisser ouvert votre robinet. Si vous mettez une trombe d'eau qui tombe sur votre bac à glaçons, il va très vite se remplir, donc il va falloir très vite le refermer. Et inversement, si vous le mettez goutte à goutte, c'est-à-dire que vous mettez une ouverture petite sur votre appareil photo, là, il va falloir le laisser ouvert longtemps pour remplir de la même quantité d'eau.
Donc vous aurez vite compris que jouer avec la lumière et faire de la photographie, c'est à la base, c'est jouer avec ces deux mamelles de la photo, c'est l'ouverture et la vitesse. On passera sous l'ouverture parce que c'est en général le chapitre le plus compliqué techniquement pour parler de ça. Il y a aussi ISO et focal qui sont très importants sur la manière.
Aborder les ISO juste pour que les gens, parce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. En pellicule, c'était assez simple de se dire j'ai telle pellicule, elle est plus ou moins sensible à la lumière. En numérique, on a un petit peu plus de mal à s'en rendre compte. En fait, c'est comme si vous aviez un bac à glaçons avec des hauteurs de glaçons variables. C'est-à-dire qu'un capteur très sensible, ça va être un bac à glaçons avec des petits réceptacles d'eau. C'est-à-dire que vous allez très vite les remplir d'eau. L'inconvénient, si vous avez des tout petits réceptacles d'eau, c'est que vous avez beaucoup plus de chances soit de mal le remplir, soit de le faire déborder. Alors que si vous avez un bac à glaçons avec des grands réceptacles, vous mettrez plus de temps pour le remplir, mais par contre, vous allez le faire plus précisément et vous avez moins de chances de le faire déborder et d'avoir des inégalités entre vos glaçons.
Voilà, c'est ce qui arrive donc quand vous avez vos appareils photo et qu'il y a le fameux réglage ISO qui peut aller de 50 à maintenant, chez Nikon, c'est 102 400, apparemment, c'est la grande nouveauté. Mais donc voilà, on peut remplir de plus en plus rapidement son capteur, chose qui était totalement inimaginable du temps de l'argentique. Donc ce sont des réglages aussi maintenant qui influent énormément sur la manière des gens de faire la photo. Ça, c'est un petit peu un tout petit aperçu de ce qu'on donne comme cours. Donc voilà, on essaie vraiment
techniques pour comprendre.
Voilà, on essaie d'expliquer aux gens la photo de manière presque rigolote. N'oublions jamais qu'à la fin, la photo, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de règles. Mais vous pouvez attaquer la photo sérieusement, la photo créative, la photo où vous êtes actif derrière votre appareil, sans non plus vous coltiner les 400 pages de manuel et les 25 forums et tutoriels d'autant de pages qui vont avec.
L'intérêt, si vous prenez un bac à glaçons, c'est que vous pouvez étudier la théorie sur le bac à glaçons, mettre vos glaçons, prendre l'apéro et faire des photos après.
Voilà, et c'est pour ça qu'on est hyper content de notre bac à glaçons. On va maintenant parler de la deuxième partie de notre cours, qui en général intéresse pas mal le monde, c'est les vrais faux et les trucs et astuces. Parce que vous le savez, et au salon de la photo, vous en êtes sûrement rendu compte, il y a beaucoup d'idées reçues et de stéréotypes qui circulent sur la photo numérique, comme les pixels, les focales, des choses comme ça.
Les marques mettent volontairement en avant des performances de leurs appareils photo.
Ouais. Et puis même vos amis vont vous donner certains conseils en photo. Et il y a beaucoup d'idées reçues dont on aime bien tordre le cou parce que c'est pas forcément vrai.
Alors, qui est-ce qui a déjà acheté un appareil photo et son ami lui a dit « Ah, c'est cool, et combien de mégapixels il fait ?»
Personne.
Ça, je pense que... Voilà. Merci Benoît.
2, 3, 4,
merci Xavier.
Bon, on va y arriver tout de suite. Mais on va vous donner quelques trucs et astuces qu'on donne pendant les cours. On va se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais par exemple, des questions qu'on reçoit beaucoup quand les gens viennent à nos ateliers, c'est « les compacts, c'est nul ». Beaucoup de gens viennent à nos ateliers pour acheter un réflexe en disant « ouais, je vais acheter mon réflexe parce que oh là là, mon compact, il fait des photos nulles. J'appuie sur le déclencheur, il faut attendre au moins 2 secondes, l'instant est déjà passé. J'en ai marre, j'ai un réflexe, c'est l'appareil photo ultime. » Évidemment, on n'est pas d'accord, sinon ce serait
c'est
pas marrant.
Un compact, c'est pas nul du tout. Un compact, ça a des caractéristiques qui sont très, très intéressantes comparées à un réflexe, mais qui ne sont pas les mêmes. La première chose qui, moi, me fait pencher pour un compact, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un appareil photo réflexe en pensant qu'ils l'ont acheté pour 10 ans. Et finalement, ils le laissent sur leur table parce que dès qu'ils sortent en soirée, bah, c'est trop gros, ça ne rentre pas dans le sac à main, je ne l'emporte pas avec moi, et ils ne font plus de photos. C'est-à-dire que je préfère avoir un appareil photo qui prend des photos un petit peu moins jolies, mais que je peux avoir sur moi et avec lequel je peux faire des photos, qu'un réflexe que je ne vais pas pouvoir trimballer et que finalement, j'en sortirai aucune photo.
Ça, c'est évidemment un conseil qu'on donne aux gens, parce que beaucoup revendent leur compact pour acheter un réflexe. Et après, ils se retrouvent souvent au moment où ils sortent pas leur réflexe parce qu'ils ont la flemme et ne prennent pas leur compact. Mais le compact, c'est aussi un appareil photo et un style d'appareil photo qui a des qualités intrinsèques. La première, par exemple, c'est la macrophotographie. Si certains d'entre vous aiment ça, donc photographier de très très près des objets, des insectes, des détails, pour faire ça avec un réflexe, pour obtenir un objectif 100% macro qui fait des agrandissements en rapport 1-1, ça vaut entre 350 et 1200 euros, voire plus pour les objectifs spécialisés. La plupart des bons compacts aujourd'hui arrivent, on peut même coller son petit objectif.
Qui démarre à 250 euros.
Exactement.
Font des photos qui se collent à 1 cm.
Et on peut faire des photos de macro beaucoup plus faciles. On vous épargnera les détails techniques du pourquoi, du comment, mais par exemple, pour la macro photo, un compact de base, c'est très très doué pour ça. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la fameuse profondeur de champ. Donc c'est ce qu'on appelle la zone de netteté, ce qui va être net, ce qui va être flou. Souvent les gens achètent un réflexe parce qu'ils veulent avoir une zone de netteté très fine. Ça veut dire faire un portrait par exemple de Rémi et que les gens derrière Rémi soient flous, voilà. Le fond soit flou, que ce soit plus pro ou plus stylé comme résultat.
Ça permet d'avoir un effet plus détaché sur l'arrière-plan.
Voilà.
Mais ça peut avoir un avantage d'avoir l'inverse, que tout soit net.
Et ça, les compacts, de par leur taille de capteur, ils sont pas très doués pour le portrait, parce que donc tout est très net, parce qu'ils ont des très petits capteurs. Mais l'inverse est vrai. Si vous voulez faire des photos de paysage, si vous voulez faire des photos de groupe avec des gens à divers plans, il vous faut beaucoup moins de lumière et ouvrir beaucoup moins grand qu'un compact pour avoir tout de net. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de la photo, des reporters, des photoreporteurs, qui sont sur des terrains de conflits armés, qui sont sur des manifestations, et qui utilisent des compacts comme deuxième appareil photo, en plus de leur réflexe, parce qu'évidemment, les réflexes, ça reste très rapide, mais qui prennent des compacts et qui peuvent shooter à main levée, parce qu'ils ont l'assurance qu'à 95%, ils auront toutes leurs photos nettes.
La photo sera nette.
Alors que ça vous est déjà sûrement arrivé avec un réflexe, vous essayez de faire une photo un peu à l'aveuglette, évidemment, c'est pas votre sujet qui est net, mais c'est ce qui est derrière, c'est le fond, et devant vous, vous avez une sorte de blob.
Et...
pas très beau.
Imaginez que vous faites du reportage de manifestation, il y a des pavés qui commencent à voler. C'est tout de suite très intéressant d'avoir un compact et de pouvoir le lever comme ça et de shooter et se dire, ben, c'est pas grave, mes photos, elles seront nettes. En plus, il y a maintenant des très grands angles qui permettent de faire ça magnifiquement sans viser.
Et aussi, la dernière chose sur les compacts pour clore là-dessus, c'est que la grande tendance depuis l'année dernière et encore plus cette année, c'est que tous les fabricants sont en train de sortir ce que beaucoup de pros voulaient, ce sont des compacts professionnels ou experts. Ont des compacts qui ont peut-être un peu moins de millions de pixels, mais qui vont pouvoir shooter en plus basse lumière, qui sont beaucoup plus performants, qui shootent en RAW, qui sont débrayables. Et donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est des fabricants, il y a Canon en fait, Panasonic en fait évidemment, Olympus et aussi Panasonic, donc
Nikon,
avec ces fameux,
Ricoh. Voilà.
font des compacts hybrides. Mais voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui pensent que le reflex, c'est vraiment l'appareil photo ultime, c'est pas exactement vrai. D'ailleurs, en parlant du reflex, une idée qui revient souvent, une idée reçue, c'est que le reflex, ça coûte bonbon, ça coûte vraiment très cher, et que vous allez vendre un rein pour passer au reflex.
Voire deux, avec un demi-poumon, si vous voulez acheter un objectif.
Voilà, voire trois, si vous êtes déformé, vous avez de la chance. Mais c'est faux. Aujourd'hui,
les réflexes ont énormément baissé. Il y a 5 ans, c'était, les entrées de gamme étaient à 1600 euros.
Ouais.
Maintenant, une entrée de gamme, on va dans n'importe quelle grande surface, on trouve un réflexe à 300 euros avec un objectif de kit.
Et quand on parle d'entrée de gamme aujourd'hui, des appareils photo à 350 euros, ils sont plus performants que les appareils photo d'il y a 5 ans qui étaient à 1500, 2000 euros. Donc aujourd'hui, on peut accéder en théorie à des boîtiers qui fournissent une qualité d'image vraiment superlative, vraiment très très bonne, pour pas cher du tout. Donc il faut pas se dire qu'aujourd'hui un boîtier reflex ça coûte cher. On peut en trouver des très bons pour pas cher et se lancer de manière, on va dire, gentillette.
Voilà. Le problème, c'est que il faut pas croire que le reflex c'est pas cher, parce qu'en fait c'est comme quand vous, c'est comme quand on rentre en boîte, 10 euros l'entrée c'est pas cher, mais après c'est les consos où on va payer. Bah là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous mettre au réflexe, vous allez vouloir acheter un deuxième objectif, un flash, un troisième objectif à 1600 euros, trois fois le prix de votre boîtier.
Et ça va vous arriver beaucoup plus facilement que vous pensez. La plupart d'entre vous qui achetez un réflexe, vous dites « Oh là là, c'est bon, j'ai acheté mon boîtier, j'ai claqué 500 euros, ça va me garder 10 ans, je ne toucherai plus rien. » Et puis au bout de 15 jours, vous allez voir un pote à vous qui a acheté un objectif qui vaut le prix de votre boîtier. Vous allez vous dire, mais comment juste un objectif peut coûter le prix de mon boîtier? Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que vous serez en train de regarder sur Internet le prix le moins cher pour acheter cet objectif. Donc dites-vous bien que le réflexe, c'est quand même un sacré engrenage, c'est très addictif. On peut rentrer dans le monde du réflexe pour pas cher du tout, mais au moment où vous allez commencer à vous investir... Voilà.
Donc il faut se dire que le prix d'achat du réflexe, en fait, c'est qu'un premier pas dans le monde de la photo, et qu'effectivement, le premier pas est pas très cher, le second l'est beaucoup plus, et le troisième, vous vendez vos deux poumons.
Mais évidemment, vous le regretterez pas, même si vous aurez du mal à respirer, parce qu'on rigole vraiment bien avec le réflexe. Ça reste aujourd'hui le système photo qui est vraiment le plus polyvalent, le plus flexible. Parmi les meilleurs photographes de mode, il y a du réflexe. Tous les meilleurs photographes sportifs, c'est du réflexe. Tous les reporters de guerre, c'est du réflexe. Donc, de ce côté-là, vous pouvez vous investir assez facilement.
Un autre petit truc et astuce, on a encore 5-10 minutes.
Ouais. Une question aussi qui revient souvent, c'est beaucoup de gens qui me disent que le flash, c'est affreux. Ils disent, mais je comprends pas, je fais des photos, dès que j'ai plus assez de lumière, bah, mon flash se déclenche, et là, c'est ignoble. Et là, on leur dit, oui, vous avez raison, c'est ignoble. En général, la personne qui s'est fait flasher n'a plus de visage.
Ou alors, qui est-ce qui a déjà fait de la photo de soirée, qui prend son copain de très près, et il se retrouve avec Casper sur la photo, tout blanc, il n'y a que les yeux qui ressortent à peine.
Enfin, quand la personne voit encore, parce que des fois, elle voit plus rien.
La personne a perdu 2/10 sur chaque œil.
Voilà, et les gens derrière sont dans noir complet, et la photo est ignoble, mais c'est le seul moyen d'avoir la lumière. Donc souvent, les gens disent, bon, bah, moi, le flash, je laisse tomber.
Et donc, au lieu de ça, ils vont faire une pose qui va être un peu plus longue. Ils auront une photo floue, orange, qui sera pas vraiment meilleure.
Pas vraiment meilleure. Alors nous, évidemment, nous, on défend le flash. C'est une solution qui est vraiment géniale. Il faut juste penser à des petites astuces pour rendre son flash plus sympathique. La première, c'est évidemment d'acheter un flash Cobra. Vous avez déjà vu ces fameux flashs, donc Cobra, qui doivent leur nom à leur forme. Quel est l'intérêt de ces flashs? Le premier, c'est que déjà, la lumière est beaucoup plus grande, et c'est pas une toute petite lumière concentrée, donc elle est plus diffusée. Évidemment, c'est plus puissant. On peut l'orienter où on veut.
Voilà.
On peut viser un mur, on peut viser un plafond, et on peut recréer des lumières qui sont beaucoup plus douces.
C'est le grand intérêt du flash Cobra, c'est qu'en fait, vous allez recréer la lumière que vous voulez. C'est-à-dire que ça va plus être un outil pour sauver une photo parce qu'il n'y a plus assez de lumière, ça va être un outil créatif pour créer de la lumière là où vous n'en avez pas. Et c'est vraiment une autre façon d'envisager le flash. C'est-à-dire que vous allez pouvoir orienter un flash sur le côté pour l'orienter vers un mur. Votre lumière va se réfléchir sur le mur, revenir sur votre modèle et faire une lumière qui sera à peu près assimilée à celle d'une fenêtre, par exemple.
Ouais. Alors évidemment, un flash Cobra, ça vaut entre 150 euros d'occasion et 600 euros neuf pour les plus performants. On n'a pas tous envie d'acheter un flash Cobra.
Psychologiquement, c'est assez dur d'acheter un flash qui est plus cher que le prix du boîtier. En général, on a du mal.
Mais on vous l'a dit, vous y viendrez peut-être. Ça, c'est normal. Il y a des petites astuces pour ceux qui ont envie d'améliorer leur flash sans dépenser des milliers et des cents. Et on en a une, c'est la balle de ping-pong. La première, c'est juste une simple balle de ping-pong ou ici un œuf en plastique parce qu'on n'a pas trouvé de balle de ping-pong ce matin en partant de chez nous. Mais ça marche pareil. Pourquoi la balle de ping-pong?
Alors, l'intérêt de mettre une balle de ping-pong, en fait, comment mettre une balle de ping-pong déjà? En fait, on a juste à faire un petit trou dans la balle de ping-pong et à encastrer la balle de ping-pong sur le flash pop-up qui se lève de votre boîtier.
Tous ceux qui ont un flash sur leur réflexe qui se lève, ça marche.
Voilà. Et donc, vous allez encastrer cette balle de ping-pong au-dessus. Et quand la lumière du flash va sortir, elle va se réfléchir, en fait, sur toute la surface en boule de la balle de ping-pong. C'est-à-dire que vous aurez de la lumière qui va partir vers le haut, vers le côté, devant, en bas. Et vous aurez plus une lumière qui va partir d'un point, mais vous aurez une lumière qui va partir à 360 degrés et qui va pouvoir en fait vous permettre de faire une lumière beaucoup plus diffuse qui va venir taper un peu de tous les côtés du modèle. Ce qui fera une lumière beaucoup plus naturelle et pas écrasante.
Ouais. Ça remplace pas un flash cobra, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est une astuce toute bête et un peu discrète, juste pour vous permettre de faire des photos en soirée, pas trop désagréables, même vraiment mieux que ce qu'on a avant. Et ça marche vraiment très très bien.
Ça permet de sauver un flash interne qui, en général, est assez mauvais, il faut le dire.
Ça marche aussi si vous avez des tupperwares, par exemple.
Voilà. Alors, dans la version moins discrète, vous avez le tupperware de votre grand-mère, qui est de 10 cm sur 10 cm. C'est très classe en soirée, mais ça permet de bien diffuser la lumière.
Si vous avez un compact, vous savez, les fameux petits compacts bijoux dont le flash est à côté de l'objectif et qui ne bouge pas et qu'on ne peut rien encastrer dessus, un papier calque, deux bouts de scotch, vous
et
mettez le papier calque légèrement,
voilà,
légèrement bombé devant le flash.
Deux, trois couches si ça ne suffit pas. Et là, vous avez un diffuseur de flash que vous avez scotché sur votre appareil photo. C'est pareil, avec du Chatterton sur le compact, c'est toujours très classe, mais ça marche.
Au moins, ça marche. Ça vous permet de sauver vos photos de soirée. Et on n'oublie pas, on l'avait dit au tout début, la photographie, on est là pour jouer avec la lumière. Et le flash, c'est une manière d'emmener une source de lumière avec vous, n'importe où vous êtes. Et il y a des moyens de la rendre plus agréable et moins agressive. Autre question qui revient évidemment très souvent, Rémi,
on terminera sur celle-là.
Ouais. Rémi en parlait juste tout à l'heure, c'est évidemment le plus de pixels c'est mieux. Dès que vous arrivez dans un magasin, il y a un autocollant en forme d'hologramme brillant, il y a marqué 14 MP, 16 MP, 12 MP, vos appareils photo font ça, vos téléphones commencent à en faire 5, 6, 8.
Votre meilleur ami va vous demander: ah super, votre appareil photo, ben, combien de mégapixels c'est? C'est la première question que les gens posent, alors que maintenant en fait,
surtout, ça tombe bien parce que c'est la dernière chose à laquelle vous devez faire attention quand vous achetez un appareil photo numérique.
Ça va être un petit peu brut de décoffrage, mais vous n'avez plus aujourd'hui besoin de faire attention au nombre de mégapixels de votre appareil photo, parce qu'ils en ont tous largement assez. À l'époque, on avait des appareils photo qui faisaient 2, 3 mégapixels, 4. Oui, je comprends que la question se pose pour imprimer une couverture de magazine en 300 DPI. Il faut 8 mégapixels.
Il faut 8 millions de pixels, ouais.
8 millions de pixels. Maintenant, tous les appareils photo que vous achetez sur le marché, ils en ont minimum 10, 12.
Et ça monte à 24, je crois.
Les réflexes, oui, on a du 25 mégapixels.
Donc dessus, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus en disant « Oh, j'aurai plus de pixels, ce sera mieux ». Quoi qu'il arrive, un écran Full HD comme ça, c'est 2 millions de pixels.
Donc, qui si regarde vous voyez ses photos uniquement sur ses écrans d'ordinateur et sur sa télé?
Ou c'est sur son téléphone.
Et après, je vais poser la question, qui imprime ses photos en plus que du A3?
Qui imprime souvent ses photos? Voilà. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que n'importe quel écran, il est de toute façon beaucoup plus petit que les photos que vous prenez. Vous n'avez pas besoin d'autant de mégapixels, vous en avez autant que vous voulez. Surtout, l'autre question, c'est plus vous avez de mégapixels, et plus ça va prendre de place sur la carte mémoire, plus ça va prendre de place sur le disque dur, et plus ça va vous prendre de temps pour ceux qui veulent faire du post-traitement. Aujourd'hui, un fichier RAW d'un Canon 5D Mark II, c'est 25 mégas une photo. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous prenez une petite rafale pour avoir la petite dernière de la famille parce qu'elle bouge dans tous les sens.
Vous faites une séance photo, vous remplissez une carte mémoire de 8 gigas.
Voilà.
Derrière, ça arrive très facilement.
Derrière, c'est du temps de transfert. Dès que vous voulez appliquer un filtre ou une correction, ça se compte plus en secondes, mais ça se compte en minutes. Donc, il faut faire attention quand aujourd'hui on prend un appareil photo, le nombre de mégapixels, ça peut être intéressant pour certaines choses, mais c'est surtout pas le Graal que ça a été pendant des années. N'oubliez pas. Il y a plein d'autres features maintenant sur lesquelles il faut se concentrer.
Alors, ça, c'est les derniers trucs astuces qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, sinon on va se faire taper sur les doigts par Benoît.
Mais on avait plein de conseils. Voilà, ça, ce sont tous les petits conseils aussi qu'on continue à donner sur nos ateliers gratuits qui s'appellent Mini Lens. Donc, évidemment, là, on a 25 minutes, nous, ça dure une après-midi. Mais vraiment, on est là pour discuter.
Les petits conseils de portrait, on demande aux gens de venir les faire avec nous. On fait des petits ateliers pratiques pour montrer aux gens comment, avec des simples petites astuces, améliorer ses portraits de famille, de copains, de soirées.
Voilà, et on garde nos derniers instants juste pour vous parler donc de lens.fr, le site et le projet qu'on a fondé.
Qui est une communauté de photographes, on est à peu près 2700 inscrits sur le site.
Et on fait des événements photos, si certains ont déjà participé, qui réunissent entre 20 et 300 photographes, suivant l'envie qu'on a de faire des petits ateliers ou des gros événements.
Des petits ateliers pratiques à 20-30 personnes, et des gros événements, des gros rassemblements en forêt de Fontainebleau, dans des studios parisiens, avec SFR. On essaye de bouger un maximum en France pour pouvoir faire des événements en province. Et la communauté, c'est quasiment que des amateurs, un petit peu de professionnels et beaucoup de débutants qui permettent en fait de grandir ensemble. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la photo avec Lens. Ça, ce sont des photos de membres qui sont tous des amateurs qui ont commencé avec Lens et qui ont commencé à développer l'aspect créatif de la photo. et moins se préoccuper du côté technique.
Voilà. Et évidemment, nos événements, on voudrait mettre vraiment un accent là-dessus pour finir. C'est qu'aujourd'hui, sur Internet, évidemment, il y a beaucoup de sites et on peut se retrouver. Mais je pense que rien ne vaut un vrai contact humain et de rencontrer des photographes de son niveau pour échanger. Donc depuis 3 ans, ça a commencé dans mon salon et en ce moment, on fait des gros trucs. Donc on vous remercie beaucoup de votre attention, en tout cas. Et peut-être à bientôt sur nos ateliers.
Donc, merci Lain, merci Rémi.